RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour la 17e étape de ce Tour de France, entre Bagnères de Luchon et Saint-Lary-Soulan, le col du Portet, 65 km à parcourir. C'est l'étape en ligne la plus courte de cette édition 2018. On en attendait monts et merveilles pour la bagarre du classement général. Pour l'instant, de bagarre, il n'y en a point eu, mis à part les baroudeurs et notamment l'éternel Julien Alaphilippe, qui est une nouvelle fois à l'avant de la course. Pierre-Yves Leroux se trouve dans la descente de Peyragudes, donc pas très loin des trois hommes de tête, dont évidemment le porteur du numéro 101, à savoir Julien Alaphilippe.
Et à l'instant, la descente se termine, le sprint s'approche dans quelques instants pour les trois hommes de tête. On a aperçu aussi Nicolas Hédet qui dans cette descente avait vraiment pris beaucoup de retard alors qu'il aurait pu être dans ce bon groupe avec Kangaert qui a été rattrapé. Et de notre point de vision actuellement, on aperçoit aussi le groupe derrière Valverde Soler qui est en train de passer avec une petite minute derrière. La descente se termine pour tout le monde, le peloton est un petit peu plus loin, mais ça va pas tarder non plus à se terminer et il va falloir remonter après le sprint. Le groupe de trois qui arrive à notre hauteur à l'instant.
Alors, que cherche à faire Julien Alaphilippe, Jérôme, par faire son maillot à pois rouge, le tricoter définitivement, ou pourquoi pas une troisième victoire d'étape?
Je pense dans un premier temps assurer son maillot à pois, mais l'appétit vient en mangeant. Alors s'il continue à être en forme comme ça, qu'ils ont assez de temps, pourquoi pas aller gagner une troisième victoire d'étape, jamais 203, ça serait parfait.
Ouais, ça fait quand même un peu beaucoup, non Cyril, de voir Julien Alaphilippe à l'attaque tous les jours, non? Ça peut réveiller quelques soupçons. On sait que les soupçons montent facilement sur les routes du Tour de France.
Oui, c'est logique. Dès que vous avez un coureur qui arrive au plus haut niveau, il y a toujours des soupçons. Enfin, il n'y en a pas eu pour Warren Barguil l'an dernier. Je vois pas pourquoi il y en aurait pour Julien Alaphilippe cette année.
Très bien. Bon, on continue la situation là. Tiens, un petit top course. Ça fait longtemps, Fred. Allez, un petit top course pour nous remettre de l'ambiance.
Allez, un petit tunnel.
Tout petit tunnel avec l'inarrêtable, effectivement, Julien Alaphilippe qui est en tête de la course à seulement 37 km de l'arrivée, alors que la course n'est pas partie depuis une heure. Cette étape au profil montagne russe, montée, descente, puis arrivée au col du Portet, le point culminant, le sommet du Tour 2018. La tête de course dans les très brefs hectomètres de plat entre la descente de Peyragudes et le début du col de Valdouron-Azet. Un trio de tête, Julien Alaphilippe donc, le Croate Christian Durasek et Tanel Kangaert, l'Estonien de l'équipe Astana. Les trois hommes sont à Loudenviel exactement dans quelques instants, le début de l'ascension vers Valdouron. Ce trio de tête compte une avance de 50 secondes sur ses anciens poursuivants, parmi lesquels notamment Alejandro Valverde, Bauke Mollema, Pierre Roland était également dans cette contre-attaque, Gorka Izagir, le champion d'Espagne, et puis à 3 minutes 30 le groupe maillot jaune, un groupe où Nairo Quintana a connu quelques soucis, le 8e du classement général qui a déjà terminé à plusieurs reprises sur le podium du Tour de France. Nairo Quintana, deux fois dépanné de la roue avant, le trio tête à l'instant au pied du col de Valdouron-Azet, un trio tête, on vous le rappelle, composé d'Alaphilippe, Durasek et Kangaert.
Et dans ce groupe, à côté de ce groupe d'attaque, nous retrouvons évidemment la moto RMC de Pierre-Yves Leroux.
Exactement, début de la montée comme le disait Fred, 7 km 400, là la rampe est tout de suite difficile, c'est pas tout à fait comme le départ tout à l'heure, mais les hommes sont chauds, après une montée, une descente c'est moins compliqué. Julien Alaphilippe qu'on aperçoit derrière nous dans ce trio qui paraît bien en forme, qui se met en danseuse à l'instant en troisième position, en revanche ça vient confirmer un peu les dires tout à l'heure de Yann Pécheral. Devant nous le ciel s'assombrit un petit peu, le toit est un peu plus bas, donc est-ce que les conditions climatiques, météorologiques vont changer pour la suite de cette étape, alors que pour le moment, il fait 26 degrés sur la route du Tour et pour le trio de tête avec Julien Alaphilippe.
Ah oui, il y a pas mal de vent qui souffle ici à Saint-Lary-Soulan, au pied du col du Portet, dernière difficulté du jour, et effectivement, le ciel s'est un petit peu chargé, mais encore, il est pas très noir. Pour l'instant, il est plutôt laiteux, blanc, l'orage ne viendra pas immédiatement, Fred, a priori.
Non, a priori, non. Et effectivement, c'est plutôt bon signe quand il y a du vent. Les nuages passent. Le seul problème ici, autour de Saint-Lary-Soulan, ce sont les montagnes qui encaissent véritablement ce joli village, cette jolie petite ville de Saint-Lary. Pour l'instant, le temps se maintient. Il y a du monde dans l'ascension du col de Val-d'Auron-Azay. Il y aura sans doute beaucoup de monde également dans la montée finale vers le col du Portet. C'est toujours Julien Alaphilippe, virevoltant vainqueur des étapes du Grand Port, du Grand Bornand et de Bagnères-de-Luchon il y a moins de 24 heures, qui emmène le trio tête. La contre-attaque est désormais reléguée à 52 secondes. Une contre-attaque où l'on trouve notamment Pellizzotti, Adam Yates, Valverde et Soler, les deux coureurs de l'équipe Movistar, Rafał Majka, le Polonais, Bauke Mollema ou le duo de l'équipe Cofidis, Edet Navarro. On ne parle plus d'Arthur Vichot ou de Pierre Roland dans cette contre-attaque.
Bientôt un trio pour Cofidis avec Errada qui se fait rattraper par le groupe de poursuivants qui a été lâché dans la descente par Julien Alaphilippe et Durasek. Dire un peu les capacités de descendeur de ces deux-là.
Oui, bon. Errada quand même largué dans la descente. C'est dur à encaisser ça. On fait l'effort pendant toute l'ascension pour évoluer à l'avant de la course. On s'approche de l'homme de tête qui était Kangert au passage au sommet. C'est quand même un sacré handicap de ne pas descendre aussi bien qu'un coureur comme Alaphilippe ou comme Durasek. Jérôme, tu étais, toi qui venais du ski de fond, pas du ski alpin, tu étais un coureur qui savait descendre ou qui au contraire appréhendait les descentes de col?
Non, j'aimais bien les descentes, ça allait plutôt pas mal. Après, pas aussi bien que Julien Alaphilippe. Hein. Je pense que Julien ou Nibali, par exemple, c'est vraiment des funambules sur le vélo. Alors moi, je descendais vite, mais pas aussi bien qu'eux. Mais par contre, tu as tout à fait raison, c'est vraiment dommage de grimper si bien, par exemple, Kerada et être lâché dans la descente, c'est dommage. Mais je pense que ça travail, donc c'est pas une fois qu'on descend mal, on peut réapprendre à bien descendre et vraiment s'améliorer.
Être largué dans une descente, messieurs, ça en fout un coup à l'orgueil. On va pas parler de honte, mais quand on voit les contre-attaquants revenir au bas de la descente, normalement on n'est pas fier, Cyril.
Non, mais de toute façon, vous le savez au départ, et comme le coureur sait au départ qu'il ne descend pas, puisque c'est quand on arrive au niveau du Tour de France, ça veut dire qu'on a déjà un bon passé au niveau amateur, un bagage, et on sait qu'on ne descend pas. Le problème, c'est que à partir du moment où on ne descend pas, c'est très difficile de s'améliorer. On peut s'améliorer un petit peu, mais il faut absolument pas se refaire des chaleurs derrière, car le gros problème des coureurs qui ne descendent pas, soit ils sont incapables d'appréhender une trajectoire, soit ils ont peur de la vitesse et donc peur de la chute. Et à partir du moment où vous avez peur, vous ne pouvez pas descendre.
Attention, changement de physionomie en tête du peloton maillot jaune avec les coéquipiers de Romain Bardet qui se portent en tête de groupe avec Dillier et Neyssen, me semble-t-il, Fred.
Exactement, le Suisse Sylvain Dillier, deuxième de Paris-Roubaix, qui est encore là au pied de la deuxième difficulté de la journée. Il a mis gaz pour rester au contact du groupe maillot jaune dans l'ascension de Peyragudes et au pied de la deuxième difficulté de la journée, le col de Val-d'Auron-Azay, effectivement, Sylvain Dillier qui vient hausser le ton, hausser l'allure. Les Sky sont désormais en deuxième rideau et ce sont les coureurs d'AG2R La Mondiale, les coéquipiers de Romain Bardet, à savoir donc Dillier, Oliver Neyssen, le grand coureur belge, et Pierre Latour, le maillot blanc de meilleur jeune. Est-ce qu'il y a une tactique là qui est mise en place? Il semble que Romain Bardet soit prêt pour les grandes manœuvres, Jérôme.
En tout cas, c'est parti pour. Est-ce qu'ils vont faire un gros tempo jusqu'à le plus loin possible dans le col pour que Romain attaque sur la fin du col, fasse la descente à bloc comme je l'espérais tout à l'heure pour aller attaquer le dernier col avec un peu d'avance? En tout cas, voilà, on attendait une réaction des favoris. On l'a par l'intermédiaire d'AG2R et c'est très bien. On va voir ce qui nous prépare.
Et la garde blanche de Chris Froome et Geraint Thomas qui se trouve en 15e position,
oui,
environ.
Elle est débordée, la garde blanche. Effectivement, Romain Bardet est en 4e position derrière ses 3 coéquipiers. Fuglsang juste derrière, Dan Martin, le duo Landa-Quintana, Roglic, également là Michael Valgren me semble-t-il, Ilnur Zakarin, le russe de l'équipe Katusha. Et après ces 10 coureurs, effectivement les Sky qui au pied de Val-d'Auron-Azay ont vu passer sur leur droite et sur leur gauche, ces outsiders au classement général. Cela n'a pas perturbé plus que cela Geraint Thomas ou Christopher Froome.
Ils ont l'air un petit peu surpris quand même.
C'est bien, ouais. C'est bien.
Ouais, surpris, oui, mais je pense qu'ils ont lissé l'effort et quand même, les AG2R sont arrivés à l'avant du peloton en mettant un gros coup de gaz. Donc, eux, ils ont, voilà, en déplaise à Cyril avec les SRM et les capteurs de puissance, ils ont géré l'effort, lissé et là, ils sont déjà revenus dans la roue des coureurs AG2R, mais on verra si ça aura laissé des traces dans les jambes.
Bon, et derrière, évidemment, cette accélération est en train de faire des dégâts alors que Olivier Nessen, l'ancien champion de Belgique, en a déjà terminé avec son effort et il se range sur le côté. Sylvain Didier emmène les coureurs et où se trouve le maillot jaune? Le maillot jaune est un peu plus loin, oui. Enfin, pas largué, mais en tous les cas c'est en file indienne.
Il est calé dans la roue de quatre coureurs de l'équipe Sky, à savoir Wout Poels, Jonathan Castroviejo, Egan Bernal, Christopher Froome est juste derrière le maillot jaune. C'est vrai que ce Sylvain Didier, coéquipier de Romain Bardet chez AG2R La Mondiale, est en train d'effectuer un très très gros boulot à un peu plus de 6 km du col de Val-d'Ouron-Azay. On est à 34 km de l'arrivée, dans la deuxième des trois difficultés de la journée, et Romain Bardet semble avoir passé les consignes chez AG2R.
Ouais, et cela a permis de faire péter un des équipiers de Chris Froome. Bon, c'est pas le plus saignant dans l'école, c'est Lucro qui est chargé notamment de tirer des longs bouts droits dans la plaine. En tous les cas, sur l'accélération de la formation AG2R, il a craqué. Il y en a d'autres. Il y a d'autres victimes qui sont en train de craquer là à l'arrière du gros maillot jaune, Fred.
Attention, oui, Guillaume Martin à la lutte pour le maillot blanc de meilleur jeune avec Pierre Roland, Pierre Latour est en train de craquer. Guillaume Martin qui manifestement n'apprécie qu'à moitié cette étape en format très ramassé. Cyril, comment se portent tes copains de la Sky?
Ils se portent très bien, ils sont restés groupés, ils ont laissé passer les adversaires, ils sont maintenant en 10e position, ils sont encore 5. Lucro qui a été décroché, eh bien lui c'est normal, c'est lui qui a monté tout le premier col et qui a fait toute la descente. Donc son travail après le premier col est terminé. On passe à l'acte 2, à la fusée 2.
Le deuxième étage de la fusée.
Le deuxième étage. Et pour l'instant, ils ne sont absolument pas en difficulté.
Voilà, il restera dans le module lunaire tout à l'heure. Trois coureurs de la Sky, Bernal, Thomas et Christopher Froome. Un groupe quand même désormais composé seulement d'une trentaine de coureurs. Hein, Fred, dans ce peloton maillot jaune, donc qui est étiré par la formation AG2R.
Oui, alors que la montée de Peyragudes s'était vraiment faite de manière régulière avec ce Luc Crowe, spécialiste des classiques, qui a réussi à rester en tête tout au long de cette ascension classée en première catégorie. Et bien là, le scénario est totalement différent.
Ouais.
Encore
un coureur. Une nouvelle accélération, Pierre Latour et Romain Bardet.
Mais c'est la suite du travail de l'équipe AG2R La Mondiale. Après Oliver Nessen qui s'écarte, Sylvain Didier, l'ancien champion de Suisse, s'est à nouveau écarté. Et c'est Pierre Roland, le maillot blanc, qui travaille très vite.
Pardon, Pierre Latour.
Aujourd'hui, je confonds Pierre Roland et Pierre Latour. On va vite rectifier ça. Effectivement, vous aurez rectifié de vous-même. Le maillot blanc de meilleur jeune, Pierre Latour, qui emmène dans sa roue Romain Bardet. Derrière, on aperçoit Jakob Fuglsang. On aperçoit surtout Dan Martin dans la roue immédiatement de Romain Bardet. Et tiens, les Sky qui sont en train de se rapprocher. Ils occupent la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e position de ce peloton. Attention, Pierre Latour, il est en train d'effectuer un très très gros boulot. Il emmène Romain Bardet et il y a un trou derrière le duo Pierre Latour, Romain Bardet. Les Sky ne réagissent pas pour l'instant à 5 km du col de Val-d'Ouron-Azay.
Gros travail effectué en tête de groupe maillot jaune par Pierre Latour, porteur du maillot blanc de meilleur jeune de ce Tour de France dans sa roue. Donc son leader Romain Bardet, Dan Martin en 3e position, les Sky qui sont derrière, qui sont en train de revenir effectivement sans s'exciter comme c'est toujours le cas, Fred.
Et sans s'exciter au contraire de Pierre Latour qui va très très vite quand même. Il semble que Romain Bardet lui ait donné des consignes parce que là le rythme imprimé par Pierre Latour, maillot blanc de meilleur jeune sur le dos, Pierre Latour 13e du classement général ce matin est absolument surprenant. Pierre Latour qui a décidé lui aussi de tout mettre, mais pas pour ses propres intérêts, pour faire gagner l'étape à Romain Bardet tout à fait à son affaire aujourd'hui, calé en deuxième position derrière Pierre Latour. caché, dissimulé derrière ses lunettes de soleil. Il a dans sa roue Dan Martin et Atapuma, deux coureurs de l'équipe Emirates, et puis derrière la Garde Sky qui, ça y est, a recollé sur ce groupe Bardet, Latour, Martin. Ça monte assez vite quand même côté Pierre Latour.
Ouais, et il reste encore du monde évidemment dans la formation Sky. Pierre Latour qui peut aussi jouer sa carte personnelle, puisqu'on rappelle que Guillaume Martin, Cyril, a été lâché sur l'accélération des coureurs de la formation G2R la mondiale.
Oui, il était en difficulté. Déjà, on l'avait senti un peu juste dans l'étape d'hier, mais même dans presque toutes les étapes, il gérait très bien avec beaucoup de métiers puis des vraies qualités de grimpeur. Là, ça monte un petit peu trop vite pour lui et ça laisse finalement la possibilité à Pierre Latour de rouler en n'ayant plus aucune contrainte par rapport à son maillot blanc. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que là, il ne reste plus que deux AG2R, ils sont encore 5 Sky.
Ouais, et Pierre Latour va-t-il pouvoir poursuivre son effort très longtemps, Jérôme? Parce que là, on le sent quand même à bloc, hein, il respire très fort.
Bah là, il est à bloc, hein, il va aller le plus loin possible, et une fois qu'il va s'écarter, ça sera au tour de Romain Bardet de jouer, de porter son attaque. On voit que Dan Martin le lâche pas, donc ça peut être un allié de circonstance, on en a parlé, c'est deux attaquants, deux tempéraments vraiment offensifs, donc voilà, s'ils arrivent à s'allier, à faire une belle descente et à attaquer le pied du dernier col avec un peu d'avance, ça peut être jouable pour la victoire d'étape.
Le but de la formation AG2R, c'est d'essayer de faire craquer les équipiers de la Sky, d'essayer de faire craquer des concurrents pour le classement général pour Romain, Cyril.
Mais il y a plusieurs solutions à leur attaque. Mais Vincent nous en avait quand même un petit peu parlé. Il pensait qu'il fallait passer l'offensive sur le deuxième col. Ils l'ont fait, ils n'ont rien à perdre de toute façon. Mais qui vous dit que dans 1 ou 2 kilomètres, vous n'allez pas avoir un Dumoulin qui va se retrouver en difficulté, ou Roglic qui peut se trouver en difficulté, et c'est la possibilité de revenir peut-être et de recroire dans ce cas-là, bien sûr, à une place sur le podium. Mais reprendre du temps pour l'instant au Sky, ça me paraît difficile. Puis il y a la descente, hein, je l'ai dit tout à l'heure, une descente relativement dangereuse, ou du moins périlleuse, dans la mesure où cette descente que l'on va aborder après le sommet, eh bien cette descente est gravillonnée.
Voilà, gros travail de Pierre Latour qui a pas un style très conventionnel. Fred, il bouge beaucoup les épaules, Pierre Latour, il bouge beaucoup sur son vélo, mais en tous les cas, il fait un gros travail depuis quelques kilomètres maintenant.
Oui, et il effectue un rapproché, puisque le peloton désormais est à 2 minutes 50 du trio tête. On vous rappelle qu'à l'avant de la course, à 3 km 500 du col de Valbouron-Azay, le trio Alaphilippe, Durasek, Kangert ouvre toujours la route. Effectivement, pour vous imaginer Pierre Latour à l'avant de ce groupe maillot jaune, un groupe composé d'une toute petite vingtaine d'unités, eh bien, mettez un casque blanc, un maillot blanc, un cuissard blanc, des chaussettes blanches et des chaussures jaunes, mettez la tête qui bouge, le maillot ouvert jusqu'au nombril quasiment, une chaîne qui se meut effectivement au rythme du coup de pédale très très saccadé de la part de Pierre Latour. Ça bouge dans tous les sens avec les oreilles. Il est en train de pédaler Pierre Latour. Effectivement, c'est l'opposé visuellement de son leader Romain Bardet. Romain Bardet est parfaitement calé, les mains sur les cocottes, tout comme Pierre Latour d'ailleurs. Il n'y a rien qui bouge chez Romain Bardet, alors que Pierre Latour, lui, est en train d'effectuer un très très gros boulot. On est là, c'est certain, sur une tactique de course, sur du tableau noir élaboré ce matin au briefing par Julien Jourdi et l'ensemble des directeurs sportifs de la formation AG2R La Mondiale. C'est très encourageant de voir Pierre Latour travailler comme ça, bosser pour Romain Bardet. Ça augure d'une offensive de la part du grimpeur auvergnat, leader de cette équipe AG2R La Mondiale.
Et un autre équipier de Froome et de Thomas n'est pas lâché, mais un peu en difficulté, me semble-t-il, Jérôme, c'est Wouters-Poels, hein, qui a pris quelques mètres de retard.
C'est ça, il n'est pas à son aise depuis le début du tour. Depuis sa chute à Paris-Nice, il a un peu de mal à retrouver son niveau. Donc voilà, il est un peu en dessous des autres. Et aujourd'hui, bah, s'il pète maintenant, il n'aura pas servi à grand-chose à ses leaders. Mais est-ce qu'ils en ont besoin? On verra ça plus tard.
On va aller faire un petit tour à l'avant de la course. Tout de même, on a oublié la bagarre pour la victoire d'étape, ou en tout cas pour aller chercher les points de la montagne. Pierre-Yves Leroux, toujours en compagnie des hommes de tête qui sont toujours trois, hein, Pierre-Yves.
La belle opération pour Julien Alaphilippe qui tricote tranquillement son maillot à pois parce qu'il va très certainement encore aller renforcer son capital point. Le trio s'est très bien entendu pendant toute cette montée. Gros boulot encore de Julien Alaphilippe à l'instant qui prend les relais et très certainement que le duo va le laisser passer en tête pour aller chercher à nouveau des points. Il reste 1,8 km dans cette montée environ. Beaucoup de monde et beaucoup de maillots à pois justement pour encourager Julien Alaphilippe sur le bord des routes. Il a de plus en plus de supporters, le coureur de l'équipe Quickstep, et il a eu une surprise il y a quelques instants puisque dans un virage, le relais, les bidons ont été passés tout simplement par Patrick Lefebvre, le manager de l'équipe Quickstep, qui était là pour l'attendre avec deux bidons et qui lui a transmis un peu de fraîcheur, un peu d'énergie pour la suite de la montée. Patrick Lefebvre qui est toujours épaté par le caractère, la joie de vivre et aussi l'énergie de son coureur qui est en train de faire un grand coup encore aujourd'hui.
Voilà, grand coup encore réalisé, total spectacle assuré par Julien Alaphilippe, le dynamiteur de ce Tour de France. Nous sommes à 31 km 700 de l'arrivée, en tête du peloton maillot jaune toujours Pierre Latour qui fournit un gros effort pour son leader Romain Bardet qui est tranquillement installé dans sa roue. Les Sky sont un peu plus loin, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e position. On revient dans un instant sur la route du Tour de France, 31 km de l'arrivée. Les grandes manœuvres sont engagées pour tenter de faire vaciller le roi Thomas et le prince Froome. À tout de suite.
RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
À 30 km de l'arrivée de cette 17e étape du Tour de France, étape annoncée cruciale pour le classement général définitif de ce Tour de France. Les grandes manœuvres sont annoncées en tête de groupe maillot jaune avec la formation AG2R qui a déclenché les hostilités. Pierre Latour qui a fait un gros travail, mais Pierre Latour qui vient de craquer, qui est désormais relégué en queue de ce groupe maillot jaune. Il a été relayé par un coureur de la formation Movistar, Fred.
Oui, c'est un coureur sur lequel sont retombés les hommes présents dans ce groupe maillot jaune, un coureur qui faisait partie de l'échappée qui s'était dessiné à la sortie tout à l'heure de Bagnères-de-Luchon. On vous rappelle que le départ avait été donné façon grille de Grand Prix de Formule 1. Marc Soler, l'Espagnol vainqueur de Paris-Nice au mois de mars dernier, le coureur de Movistar qui a pris le relais effectivement de Pierre Latour, Latour qui s'est écarté. Marc Soler a compris qu'il y avait une action d'envergure qui était en train de se profiler, lui qui compte dans ce groupe maillot jaune, le duo Quintana-Landa. Marc Soler continue d'étirer ce groupe maillot jaune, mais il n'y a plus qu'un AG2R la mondiale dans ce groupe de favoris. C'est évidemment Romain Bardet qui a vu revenir sur sa gauche et le doubler un certain Michał Kwiatkowski, coéquipier de Geraint Thomas, de Christopher Froome au sein de la formation Sky. Les Sky sont venus se positionner juste derrière Marc Soler. Tout est rentré dans l'ordre.
Et on espère que les efforts consentis par Pierre Latour ne vont pas lui coûter son maillot blanc. On a vu tout à l'heure que Guillaume Martin, qui est son principal rival pour ce classement du meilleur jeune, avait été lâché dès les premières rampes de ce deuxième col de la journée. Mais il reste devant Bernal, hein, qui est l'un des équipiers, sinon l'équipier numéro 1 de Froome et de Thomas dans la montagne. Mais Bernal pointé ce matin avec un retard de 13 minutes 50 sur Pierre Latour. Donc pour l'instant, pas de gros danger pour le maillot blanc de Pierre Latour qui tente de s'accrocher. Nous sommes dans les 400 derniers mètres de l'ascension de ce col de Val-Louron, avec Julien Alaphilippe qui est toujours en tête, accompagné de deux autres coureurs, Pierre-Yves, et qui va sans doute aller jouer les points de la montagne dans quelques instants. Pierre-Yves ? Non, il est pas là. On va le retrouver.
On est dans la descente. Oui. On est dans la descente, pardon. Christophe. On a été obligé de prendre de l'avance parce que c'est une descente très sinueuse et il faut faire très attention. Et que vous le savez, vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte hier notamment. Il faut prendre des précautions, surtout quand on a un Julien Alaphilippe aux trousses. Ça va plus vite que la moto, donc on va mettre un petit peu de champ entre nous et le porteur du maillot à pois.
Très bien, le porteur du maillot à pois justement qui va en finir dans quelques instants avec ce col de Val-Louron, Fred.
Oui, c'est Julien La Voltige. 24 heures après. Raid, sa chevauchée victorieuse en direction de Bagnères-de-Luchon. Julien Alaphilippe passe en tête du sommet, passe en tête au col de Val-Louron-Azay après avoir pris la deuxième place à la montée de Peyragudes, classée en première catégorie. C'est la première place et ce sont à nouveau de gros points que récolte Julien Alaphilippe qui, pour de bon, est en train de se tisser un maillot à pois qu'il devrait ramener selon toute vraisemblance à Paris. En tout cas, cela en prend le chemin. Il est imbattable, Julien Alaphilippe. suite, pardon, dans l'école depuis le début de ce Tour de France quand il se décide à faire la course.
Alors Cyril, tu nous disais hier que c'était pas du tout encore certain qu'il puisse le ramener là, en franchissant le col de Val-Louron en tête, en ayant franchi le col, le premier col de la journée en deuxième position. Il a quand même accumulé un nombre de points considérable. A priori, ça devrait être pour lui définitivement.
Bien, je pense que ces deux cols qu'il passe devant lui ont permis d'arriver à 140 points, c'est-à-dire 110 points de plus que Geraint Thomas. Donc maintenant, oui, je pense que le break est fait.
Voilà, c'est gagné sans doute pour Julian Alaphilippe, qui nous étonne jour après jour et qui vraiment est un coureur extraordinaire. Le peloton maillot jaune, où la situation est redevenue normale, puisque Pierre Latour a dû s'écarter. Il a été relayé par un coureur de la formation Movistar, mais Katowski, Thomas, Froome ne sont pas loin, Tom Dumoulin également, Romain Bardet est dans un deuxième rideau, Fred.
Oui, effectivement, Romain Bardet qui est malheureusement rentré dans le rang après le gros travail, on le rappelle, de Pierre Latour, son équipier de la formation AG2R La Mondiale. Le peloton maillot jaune qui se rapproche de la tête de course, 2 minutes 10, toujours des Movistar qui travaillent pour Quintana et pour Landa. C'est toujours le même Marc Soler, le jeune coureur vainqueur de Paris-Nice au mois de mars dernier. Un petit mot sur la composition de ce groupe maillot jaune. Nous avons là Romain Bardet, évidemment, Marc Soler, Quintana et Landa, encore 4 Sky, 5 Sky même, Wout Poels, Michał Kwiatkowski, Castro Viejo, Egan Bernal, ça fait bien 6 Sky si l'on rajoute Geraint Thomas et Christopher Froome. Le duo Landa-Quintana chez Movistar, côté français, on l'a dit, Romain Bardet, David Gaudu est là également. Notez la présence des deux Lotto Jumbo, Roglic et Kreuzweil, qui sont en embuscade au classement général. Dan Martin, l'Irlandais, le Danois Jakob Fuglsang chez Astana, Ilnur Zakaria et là également Bob Jungels, le luxembourgeois de l'équipe Quickstep, les deux frères Izagir, Gorka et Yon chez Bahrain Merida. On a à peu près fait le tour là, je crois. On a là un groupe maillot jaune fort d'une grosse vingtaine d'unités. Arthur Vichot est là également, lui qui vient d'être rattrapé, il faisait partie de l'échappée matinale.
Voilà, donc première tentative avortée pour la formation AG2R la mondiale. Désormais, Romain Bardet, Cyril, est esselé dans ce groupe maillot jaune et on voit mal comment il peut désormais mettre à mal toute l'équipe Sky, peut-être dans la descente.
Dans la descente, mais il aurait fallu qu'il bascule peut-être un tout petit peu plus devant, puisque les Sky sont revenus se positionner dans les premières positions, directement dans la roue du Movistar solaire, qui fait la descente, mais pour l'instant, cette descente est maîtrisée par les Sky.
Et en tête de la course, toujours deux hommes, Alaphilippe et Kangard, qui attaquent la descente à vive allure. Pierre-Yves est sur la moto, lui aussi dans la descente, un peu plus à l'avant.
Oui Christophe, il faudra faire très attention à partir du kilomètre 40 dans cette étape, parce que ça devient très très technique avec un premier virage très dangereux à gauche et ensuite la traversée de Hazet, qui est vraiment le petit village là où il y a plein de virages, des supporters de chaque côté. Attention, bah tiens, il y a même un calvaire, j'espère que c'est pas prémonitoire, on va l'espérer, mais en tout cas c'est très dangereux sur cette dernière partie de la descente avant de remonter derrière, et il faudra être très attentif.
Et pendant ce temps-là, Julien Alaphilippe poursuit son numéro, toujours aussi impressionnant dans les descentes. Jérôme, il est en train de prendre quelques mètres d'avance à Kongart. Qu'est-ce qu'il peut espérer aujourd'hui, Julien? L'avance n'est pas assez suffisante pour lui permettre d'envisager la victoire d'étape. Il se fait plaisir encore là.
Bah c'est ça, il se fait plaisir. Pour l'instant, elle n'est pas suffisante, mais on voit la descente très technique. Il va peut-être encore augmenter son avance. Mais voilà, maintenant il est devant, il va pas se relever et se dire bon bah pour la victoire, j'y crois pas. Donc il va essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, et sa journée de toute manière est réussie. Il a quasiment assuré son maillot à poids. Il va peut-être aller chercher le prix du plus combatif si ça se trouve. Donc voilà, il continue, il se fait plaisir, il a des jambes de feu, donc faut qu'il en profite, parce que ça va sûrement pas durer toute la saison non plus.
C'est incroyable quand même, après les efforts qu'il a consentis hier et sa victoire. Il est arrivé très tard à l'hôtel, après évidemment avoir répondu à toutes les sollicitations des médias, le massage en retard, et là, bah, il est encore une fois à l'attaque aujourd'hui. Il est sur un nuage.
C'est ça, il est sur un nuage, mais quand on gagne deux étapes au Tour, qu'on est maillot à poids, on est forcément sur un nuage, et puis il est un peu hyperactif, alors lui ça lui pose pas de problème d'avoir des sollicitations et de rentrer tard à l'hôtel. Donc voilà, c'est signe que sa forme est très bonne, il récupère très bien, on a l'impression qu'il est presque de mieux en mieux tous les jours. Voilà, c'est super pour lui et faut qu'il en profite parce qu'on a vu avec Warren Barguil que les années suivent mais ça ressemble pas, donc autant qu'il en profite.
Tout ce qui est pris n'est plus à prendre pour Julien Alaphilippe. Deux victoires d'étape déjà, le maillot à pois rouge quasiment définitivement installé sur ses épaules à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Julien Alaphilippe, heureusement qu'il est là dans ce Tour de France, sinon on s'ennuierait ferme. Y a-t-il la bagarre dans la descente, Fred? Est-ce que d'autres concurrents, d'autres outsiders de ce Tour de France essayent de prendre quelques mètres à Froome et sa garde rapprochée?
Non, la descente est toujours conduite par Marc Soler, le coéquipier de Quintana et Landa dans ce groupe maillot jaune. On rappelle qu'entre le duo tête Alaphilippe et Durasek, il y a des contre-attaquants et pas des moindres qui évoluent eux à 50 secondes de la tête de course. Il y a dans cette contre-attaque le Polonais Rafał Majka, l'Espagnol Alejandro Valverde qui était 11e du classement général ce matin, son compatriote Omar Fraile, vainqueur de l'étape de Mende, le coureur de l'équipe Astana, Daniel Martinez, un Colombien de la formation Education First, et puis à l'instant c'est l'Italien vétéran du Tour quadragénaire Franco Pellizzotti qui vient de revenir dans la descente. Ce groupe de contre-attaque est à 50 secondes derrière le duo tête Alaphilippe Kangert, le peloton maillot jaune à 2 minutes 15. On vous a égrené la composition du groupe maillot jaune tout à l'heure, rajouté à cette composition la présence de coureurs comme Bauke Mollema, TJ Van Garderen, Pierre Roland et Warren Barguil, ainsi que Mikel Niévé.
On nous annonce la chute du porteur du maillot vert, Peter Sagan, dans la descente du col de Val-Louron. On n'a pas eu d'image sur nos écrans de contrôle de Peter Sagan. On ne sait pas s'il a pu reprendre la course. En tous les cas, c'est surprenant. C'est rare, c'est très rare, hein, Jérôme, que Peter Sagan soit victime d'une chute, lui aussi, qui est un véritable artiste, un funambule sur le vélo, un peu à l'image de Julien Alaphilippe.
Exactement, les deux coureurs se ressemblent. C'est des artistes sur le vélo. C'est des phénomènes, mais comme quoi personne n'est à l'abri, donc peut-être un bon enseignement pour Julien. Mais voilà, on espère que c'est sans gravité, qu'il pourra repartir et terminer l'étape. Mais voilà, c'est toujours quand on est lâché, c'est toujours dommage de tomber. Mais est-ce qu'il a voulu se faire plaisir et faire une belle descente? On ne sait pas, mais on espère qu'il a rien en tout cas.
On espère qu'il a rien, évidemment, lui aussi, qui a définitivement installé sur ses épaules le maillot vert. Sauf si évidemment il était contraint à l'abandon. Julien Alaphilippe, lui, a le maillot à pois sur les épaules et il va en finir dans quelques minutes avec cette descente du col de Val-Louron. Le peloton maillot jaune qui est en train de passer dans le village d'Azette dont nous parlait tout à l'heure Pierre-Yves Leroux. Pour l'instant, pas de danger, pas de chute dans le groupe maillot jaune, Fred.
Non, il y aurait eu moyen de mettre en danger certains coureurs si les outsiders au classement général avaient voulu faire la descente, comme disent les coureurs, mettre en difficulté les Sky. Effectivement, les routes très sinueuses, voire tortueuses, avec des ruptures de pente, des changements de revêtement dans la traversée de ce village tout à l'heure. On a pu le voir alors que nous faisions la reconnaissance du final de cette étape. La traversée du village d'Azep à 22 km de l'arrivée ne provoque aucune chute, aucune difficulté. Pour l'instant, c'est toujours un duo de tête qui ouvre la route à 20 km de l'arrivée très exactement. Julien Alaphilippe, maillot à pois sur les épaules, maillot à pois virevoltant, est accompagné de Tanel Kangert. Leur avance sur le groupe maillot jaune au bas de la descente de Val-Louron à Azay, 2 minutes 20
d'avance. Nous sommes à 20 km de l'arrivée dans quelques instants. Le groupe maillot jaune, le groupe des favoris, va se présenter devant le dernier col de cette étape, pour l'instant décevante, le dernier col, le col du Porte, particulièrement difficile. On va voir si la bagarre peut se produire dans ce dernier col. Ce sont nos derniers espoirs du jour. À tout de suite.
RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
À 17 500 de l'arrivée, les deux hommes de tête qui vont aborder dans quelques instants, Fred, la dernière difficulté du jour, la principale difficulté du jour, le col du Porté qui est très long, 16 km, 8,7% de pente moyenne. C'est là qu'aura peut-être lieu la bagarre hypothétique tout à l'heure pour le classement général. En tous les cas, Alaphilippe, une nouvelle fois, nous surprend, nous régale sur les routes de ce Tour de France.
Il est inarrêtable, effectivement, le puncher muet en grimpe. grimpeur Julien Alaphilippe, double vainqueur d'étape depuis le départ du Tour au Grand Bornand dans les Alpes, et puis hier à Bagnères-de-Luchon, Julien Alaphilippe accompagné d'un coureur estonien dans la traversée de Saint-Lary-Soulan à 17 km de l'arrivée. Le duo de tête compte exactement 55 secondes sur une contre-attaque où l'on trouve Rafał Majka, Alejandro Valverde, Omar Fraile, le Colombien Daniel Martinez et l'Italien Pellizzotti. Le peloton maillot jaune emmené par un coéquipier de Quintana et Landa, un coureur de Movistar dans la descente du col de Val-Louron-Azay, et il est relégué à 2 minutes 40. Tout est sous contrôle car les Sky sont encore 6 dans ce groupe maillot jaune qui compte une petite trentaine d'unités.
Indestructible formation britannique Sky qui écrase ce Tour de France, qui chloroforme toutes les tentatives d'attaque des uns et des autres. On a vu tout à l'heure la formation AG2R tenter quelque chose dans la montée de Val-Louron avec Didier, avec Nielsen ou avec Pierre Latour, mais cela n'a rien donné. Pierre Latour a été obligé de se ranger et qui désormais est à l'arrière de ce groupe maillot jaune. Je ne sais pas s'il a pu reprendre la roue dans la descente, Pierre Latour, mais on rappelle que lui aussi joue gros sur ce Tour de France, lui qui est porteur du maillot blanc de meilleur jeune. 16 km de son de l'arrivée, la moto RMC à l'avant de la course avec les deux hommes de tête, Kangert et Alaphilippe. Pierre-Yves. Pierre-Yves, il n'est pas là. Pierre-Yves n'est pas là. Pierre-Yves a disparu. On va le retrouver dans quelques instants. Donc 2 minutes 39, Cyril. Est-ce que cette avance permet à Alaphilippe de rêver à une troisième victoire d'étape dans ce Tour de France?
Tout dépend s'il y a des grosses attaques derrière ou pas. S'il y a une vraie bagarre, non. Si on se regarde pendant 7-8 kilomètres avant de déclencher la bagarre, rien ne dit que Julien Alaphilippe ne peut pas aller chercher une troisième victoire d'étape.
Et d'après ce que tu nous disais tout à l'heure, tu nous annonçais donc la bagarre et Christopher Froome qui serait le premier à la lancer dans les deux ou dans les cinq dernières minutes.
Oui, alors peut-être étape. Un peu plus, on va dire les 10 dernières.
Alaphilippe qui est en train de mettre la flèche. C'est fini, plus de pétrole dans le moteur pour Julien Alaphilippe qui a fait son boulot, mais qui là effectivement lors des premiers kilomètres de cette ascension, Fred, n'en peut plus et laisse Kangert partir tout seul.
Oui, Julien Alaphilippe qui fait preuve de sagesse enfin en laissant Tanel Kangert, son compagnon d'échappée, s'envoler quasiment en direction du col du Portet. On est au pied de cette ultime difficulté de la journée. Effectivement, il a touché ses limites, Julien Alaphilippe, auteur d'une longue chevauchée hier, une chevauchée victorieuse vers Bagnères-de-Luchon. Effectivement, il a fait ça sur le jus, sur les nerfs ce matin au départ de Bagnères-de-Luchon. Il a passé les deux premières difficultés de la journée dans les toutes premières positions et il se relève.
La moto RMC, on a retrouvé Pierre. On était inquiets, messieurs. On pensait que vous aviez filé tout droit dans la descente. Non, ça va, tout va bien pour vous.
Ça aurait été possible parce que c'est sans doute l'une ou la descente la plus technique, la plus difficile depuis le début de ce Tour de France, mais elle a été bien négociée par la plupart des coureurs, à part peut-être par Peter Sagan. Kangert est donc tout seul désormais. Julien Alaphilippe sait que cette montée de 16 km est trop compliquée. Énormément de public là sur ce premier kilomètre. On va voir combien de temps ça dure. Et le Diablo, il est là juste à l'instant. Kangert va l'apercevoir sur sa droite, le fameux personnage présent sur le Tour depuis bien longtemps maintenant. Et puis peut-être que ce qu'on va faire nous, Christophe, dans quelques instants, c'est se garer également et puis attendre la bagarre derrière, parce que c'est celle-là qu'on attend quand même. Elle va bien se déclencher un jour pour le maillot jaune, donc on va peut-être attendre le groupe Romain Bardet, Geraint Thomas et Chris Froome et pouvoir être au plus près du suspense pour la fin quasiment de ce Tour de France.
Et on espère que tu ne vas pas t'arrêter pour rien et qu'il y aura bien un semblant de bagarre dans les derniers kilomètres de ce col, 15 km de son de l'arrivée donc pour Tanel Kangert, le peloton pointé avec un retard, Fred, de 2 minutes 47.
Exactement, toujours conduit par Marc Soler, le coéquipier de Landa et Quintana chez Movistar. On vous rappelle que le troisième leader de l'équipe espagnole est en contre-attaque. C'est Alejandro Valverde qui pointe à 50 secondes de l'homme de tête Tanel Kangert. Valverde désormais accompagné au pied du col du Portet par Rafał Majka, le grimpeur polonais, Omar Fraile, son compatriote espagnol, et Daniel Martinez, un Colombien de l'équipe américaine Education First. Ces quatre-là vont avoir du mal à rester ensemble dans les pentes très prononcées du col du Portet, mais Valverde est toujours là en appui, lui qui pointait ce matin tout de même à la 11e place du classement général, à plus de 9 minutes de Geraint Thomas. Il ne constitue pas un danger immédiat pour le maillot jaune. Devant, à l'avant du peloton, son coéquipier Marc Soler, le vainqueur de Paris-Nice, accélère au pied du col du Portet. Il fait le travail pour Mikel Landa, le Basque, et pour Nairo Quintana, le Colombien. et il emmène dans sa roue un seul coureur, c'est Castro Viejo, un autre espagnol coureur de l'équipe Sky qui n'attend pas ses coéquipiers de la formation Sky. Castro Viejo qui ne laisse pas Marc Soler accélérer au pied de ce col du Portet. Tiens, les Movistar ont tout de même des idées derrière de la tête apparemment, puisque Valverde est en émissaire. Soler fait un gros travail à l'avant du peloton et Landa et Quintana sont toujours calés derrière les Sky.
Vont-ils réussir à faire plier la machine jusque là bien huilée de la formation Sky? C'est toute la question qu'on se pose à 14 km 800 de l'arrivée, en tous les cas pour l'homme de tête, un peu plus loin pour le peloton maillot jaune. Cyril, est-ce qu'il y a des espoirs, est-ce qu'il y a des illusions à se faire encore dans le dernier col de cette étape?
Si on regarde bien, Soler était dans l'échappée, il a attendu, il a fait toute la fin de la montée du deuxième col, il a fait toute la descente au pied du col, il essaye d'accélérer pour durcir la course et les Sky font la cassure et laissent partir.
Dan Martin passe à l'attaque, Fred. Dan Martin qui était annoncé tout à l'heure par Jérôme Coppel, qui se dresse avec Quintana dans sa roue, Fred.
Et c'est effectivement Dan Martin, l'Irlandais, le vainqueur de l'étape de Mur de Bretagne, qui avait déjà remporté une étape dans les Pyrénées il y a quelques années, à l'époque où il portait le maillot de l'équipe américaine Garmin. Le voilà, le premier attaquant parmi les outsiders, Dan Martin qui emmène dans sa roue Nairo Quintana. Vous le voyez, les Movistar ont décidé de sortir l'artillerie aujourd'hui, avec Valverde devant, avec Soler en équipier modèle, et Quintana qui saute dans la roue de Dan Martin. Dan Martin, dixième du général, à près de 7 minutes de Geraint Thomas ce matin.
Quintana qui attaque à nouveau
qui relaie Dan Martin. Nairo Quintana, le Colombien qui ce matin lui était 8ème du général à 4.23, il est en train de sortir de la roue Dan Martin. Ils ont fait le break, les deux coureurs, Quintana et Dan Martin, qui ont 50 mètres d'avance sur le peloton maillot jaune.
Et on ne s'affole pas dans le peloton maillot jaune, Thomas et Froome qui continuent de faire rouler tranquillement leurs équipiers. Quintana qui est assez loin au classement général, c'est peut-être la raison pour laquelle les Sky ne réagissent pas derrière, Cyril.
Ils n'ont pas à réagir sur Quintana. Quintana est quand même à 6 minutes. Donc ils assurent leur tempo. Ils sont sur leur data tranquillement. Ils sont encore 6. Donc pas d'affolement. Comme je dis, peut-être que les 5 dernières minutes. Et peut-être pas d'ailleurs.
Alors quels seraient les adversaires sur lesquels ils rouleraient? Il y en aurait combien? Il y aurait Roglic, Dumoulin, Bardet.
Les 3 suivants.
Ouais, Landa éventuellement. Est-ce qu'ils pourraient rouler sur Landa qui était Landa à 3 minutes 42?
Landa est trop loin.
D'accord. Donc Landa ne roule
que sur Dumoulin, Bardet et puis Roglic.
Mais ils n'ont pas besoin de rouler sur un tel ou un tel. Ils impriment un tel rythme avec une telle régularité dans l'effort, un tempo si élevé qu'ils n'ont pas besoin de chasser le coureur qui est devant. S'ils maintiennent cette allure et ce niveau de puissance, puisqu'on vous rappelle qu'ils ont les yeux rivés, en tout cas Christopher Froome, ils ont leur tempo rythmé par les watts développés et inscrits sur leur capteur de puissance. Ils n'ont pas besoin de chasser le coureur, il rentre naturellement sur les audacieux, les téméraires, et en l'occurrence les deux téméraires qui tentent de fausser compagnie au groupe maillot jaune. C'est Nairo Quintana, le Colombien de l'équipe Movistar, et Dan Martin, l'Irlandais de l'équipe Emirates. Quintana et Martin qui comptent une vingtaine de secondes d'avance désormais sur le train Sky et le peloton maillot jaune.
Le train Sky toujours aussi impressionnant. On va retrouver la moto RMC, je ne sais pas si elle a le peloton maillot jaune en visu. Pierre-Yves sur la moto.
Ça ne saurait tarder. On a laissé passer Kangert. On va attendre un petit peu là avec Marco encore. On a le groupe Valverde qui va arriver sur notre droite dans un instant. Et puis le peloton maillot jaune qui ne saurait tarder puisqu'il y a un certain nombre de motards là qui vont nous l'accompagner. On va regarder dans un instant. Voilà, Valverde qui est sur notre droite en troisième position dans ce groupe avec Maika notamment. Et puis derrière, ça commence à être compliqué pour les autres. Mais ça... je regarde à gauche maintenant, ça va s'approcher pour le peloton maillot jaune d'ici peu, voilà. Alors l'écart doit être à peu près de 2 minutes environ pour Dan Martin et Quintana qui sont juste derrière maintenant dans cette grande courbe.
Et Quintana qui a pris une trentaine de secondes d'avance désormais sur le peloton maillot jaune. Quintana, on le rappelle, 8ème au classement général ce matin à 4 minutes 23. Devant lui, il y a Kruiswijk par exemple qui était à 3.57. Il pourrait passer devant lui et viser une 7ème, voire une 6ème ou une 5ème place dans ce Tour de France. Mais vraisemblablement pour le maillot jaune, Jérôme, ce sera compliqué pour Quintana. C'est la raison pour laquelle les Sky ne se sont pas affolés une fois de plus.
Bah, bien sûr, avec 4 minutes 30 de retard, il n'y a pas le feu dans la maison Sky. Voilà, il le laisse. Et je pense que Quintana vise plutôt la victoire d'étape plutôt que le classement général. Donc, mais comme l'a dit Fred, ils ont les Sky, c'est tout sous contrôle. Ils ont leur capteur de puissance. Ils savent pendant combien de temps ils peuvent rouler à une puissance donnée, chacun leur tour. Donc, ils restent dans leur zone de puissance. Ils savent que s'ils en dépassent, ils vont exploser. Donc, ils restent là. Et on va voir si Quintana arrive à creuser. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'un attaquant prend un peu d'avance et ensuite, il plafonne à 30 secondes, à 40 secondes et il grappille juste petit à petit. Mais il n'y a pas le feu dans la maison Sky.
Nairo Quintana, qui a longtemps été désigné, Fred, comme le rival numéro 1 de Christopher Froome. On se rappelle qu'il avait terminé deuxième du Tour de France, deuxième en 2013 et troisième en 2016, remportant le classement du meilleur jeune, classement du meilleur grimpeur.
Deux fois deuxième du Tour, deux fois deuxième en 2013 et 2015.
Deux fois deuxième, une fois troisième. Pardon,
j'avais oublié 2015. D'une étape, déjà vainqueur d'une étape sur le Tour, ce n'est pas cher payé de la part d'un grimpeur de sa classe et surtout un coureur qui effectivement a fait deux fois deux et une fois troisième du classement général. C'était, et Jérôme doit parfaitement s'en souvenir, c'était effectivement sur les hauteurs d'Annecy.
C'est ça, au Semnoz, en Haute-Savoie. Donc voilà, on en revient Quintana toujours à la Haute-Savoie.
Quintana tout seul, Pierre-Yves sur la moto.
Oh oui, il y a Julien Alaphilippe qui a vu passer une mobilette. Quintana juste à côté de lui. Dan Martin, lui, a perdu une cinquantaine de mètres à peu près sur Quintana, ouais, qui est parti dans une folle, ouais, chevauchée. Et Julien Alaphilippe, lui, est vraiment lâché.
Pierre-Yves, la bagarre derrière avec Roglic qui attaque. Et cette fois-ci, Christopher Froome roule derrière Roglic, Fred.
Après l'attaque de Quintana, après l'attaque de Dan Martin, c'est le quatrième du classement général à 15 km de l'arrivée. Primoz Roglic, le Slovène, vainqueur de l'étape de Serre Chevalier l'an passé, quatrième donc du classement général ce matin, à 2 minutes 38 du maillot jaune qui vient d'attaquer sur la droite de la route. Un seul Sky a sauté dans sa roue, il s'agit effectivement de Christopher Froome, le quadruple vainqueur du Tour. Et derrière, qui roule? Ce n'est pas Geraint Thomas, ce n'est pas un Sky, mais c'est bel et bien Tom Dumoulin,
bien sûr,
le néerlandais, troisième du classement général,
sur le podium,
qui ne veut pas perdre sa place sur le podium, ou qui se dit tiens aujourd'hui il y a un terrain pour mettre un mal Geraint Thomas. Thomas n'a pas sauté dans la roue de Roglic et encore moins de Christopher Froome, son équipier. Du coup, Tom Dumoulin s'y colle avec dans sa roue Geraint Thomas et Egan Bernal, le Colombien. Romain Bardet est quatrième. Dans la roue de Romain Bardet, Kreuzweig, Landa. On aperçoit également Castroviejo, Wout Poels. Tout ça, c'est des coureurs de l'équipe Sky. Belle tentative de Primoz Roglic, le Slovène, toujours en compagnie de Christopher Froome. Ces deux-là ne comptent qu'une cinquantaine de mètres d'avance sur le reste du groupe maillot jaune.
Et Julien Alaphilippe qui est au spectacle là, arrêté ou quasiment arrêté sur le bord de la route et qui voit passer effectivement le peloton des favoris avec Tom Dumoulin qui revient petit à petit sur Roglic et Christopher Froome. Geraint Thomas, que doit penser Geraint Thomas dans ce moment de course, Cyril? Il doit se dire, j'espère qu'il y en a un autre qui va attaquer, comme ça je vais pouvoir le revenir sur Froome en prenant sa roue, non?
Bien, pour l'instant, il est obligé de rester un petit peu en retrait et il a tout ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'il doit prier le bon Dieu pour que Dumoulin aille rechercher les deux attaquants.
Ou au moins continue de rouler pour maintenir à distance raisonnable le duo Roglic-Froome. Sinon Roglic, au moins Christopher Froome. C'est certain, Geraint Thomas a trouvé un scooter idéal pour maintenir à portée de fusil son coéquipier et dauphin, ouais, au classement général.
Et Christopher Froome, Jérôme, n'aurait pas intérêt, lui, à attaquer maintenant et à essayer de déposer Roglic et d'aller récupérer le maillot jaune qui est toujours sur les épaules de Geraint Thomas?
Et si, et ça va peut-être arriver d'ailleurs, on verra dans les kilomètres à venir, mais je pense que quand Roglic va un peu se calmer, c'est possible que Christopher Froome contre. Et la même chose derrière, quand si Tom Dumoulin arrive à ramener sur Roglic, Geraint Thomas va certainement contrer. Ils ont l'air très forts, mais voilà, Geraint Thomas là, il est un peu dans une position inconfortable, mais Tom Dumoulin fait le travail pour lui. Il y en a d'autres qui vont attaquer, je pense à Romain Bardet aussi, donc il pourra sauter dans la roue. Et après, s'il arrive à les contrer, voilà, ça peut être encore un festival.
Il y a quelques
Sky
dégâts quand même, oui, au sein de la formation Sky, avec deux coureurs, deux équipiers de Thomas et de Christopher Froome qui viennent de mettre la flèche, Fred.
Oui, ça pète à cause du train imprimé par Tom Dumoulin qui chasse derrière le duo Roglic-Froome. Tom Dumoulin qui en met ramène toujours dans sa roue le maillot jaune Geraint Thomas, mais derrière Egan Bernal montre des signes de faiblesse. Il se trouve à quelques 50 mètres de Christopher Froome et Primoz Roglic, ce groupe avec Tom Dumoulin, avec le maillot jaune Geraint Thomas, avec Steven Kruiswijk le néerlandais, Romain Bardet, Mikel Landa et Egan Bernal. Vous avez là 6 coureurs derrière le duo Primoz Roglic. On rappelle la composition, la situation de course. Un homme seul en tête à 12 km de l'arrivée, Tanel Kangert, l'Estonien de l'équipe Astana. À 1.20, on a un groupe avec Valverde. Quintana est à 1.35, Roglic, ouais, et Froome à 1.50, et le groupe maillot jaune à 2.30.
La moto RMC, Pierre-Yves.
Oui, effectivement, avec Pellizzotti, Quintana qui viennent de passer devant nous. Dan Martin est juste derrière nous. On va le laisser passer, Marco. Dan Martin qui est dans nos dans notre roue, derrière à 20 mètres. Et le groupe maillot jaune qui est tout près. Chris Froome est juste derrière. On va les laisser passer avec également le groupe Bardet qu'on aperçoit derrière. Allez, on va les laisser passer. Dan Martin est sur notre gauche. À l'instant, il a 40 mètres d'avance sur Roglic qui est en train d'emmener ce groupe. Derrière lui, Chris Froome. Chris Froome qui va être juste rattrapé à l'instant par Dumoulin. Dans sa roue, Geraint Thomas. Il y a la Romain Bardet qui est juste derrière également. Et pour fermer le groupe Bernal, il y a une dizaine de coureurs. On va se mettre juste derrière Marco et on va les suivre maintenant puisqu'on a l'autorisation du régulateur pour suivre ce groupe. Où va se passer la bagarre dans la suite de cette montée? Pour l'instant, Romain Bardet est en dernière position de ce groupe. À l'instant, la jonction est faite avec Roglic, Chris Froome dans sa roue et Tom Dumoulin et Geraint Thomas juste derrière.
Voilà, Roglic qui se relève quelque peu. Jérôme qui a pas réussi à faire les écarts alors que Bernal, équipe pied de Thomas et Froome, se met désormais en tête de ce groupe maillot jaune.
Ben voilà, toujours sous contrôle. Par contre, je suis un peu inquiet pour Romain Bardet. Oui. Il a pas le rictus des bons jours. Voilà, j'espère que c'est une mauvaise impression de ma part, mais en tout cas, ça a l'air difficile pour lui. Bien sûr, le rythme est très élevé. On espère qu'on verra d'autres attaques. C'était une belle tentative de Roglic, mais voilà, c'est encore sous contrôle de la Sky.
La formation Sky impressionnante et Tom Dumoulin aussi. Hein, on rappelle qu'il a fait un sacré effort et qui a permis donc à Geraint Thomas et au groupe de maillot jaune de revenir sur Roglic et Froome qui étaient partis. Donc pour l'instant, Geraint Thomas toujours maillot jaune solidement installé sur ses épaules. 11 km 700 de l'arrivée. On revient dans un instant sur la route du Tour pour le final de cette 17e étape. On tente des choses, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. La Sky solidement installée aux commandes de ce Tour de France.
RMC Intégral Tour.